Radio Okapi.
Le journal. Pascal Massiri Kabissimoi.
À la une ce soir, la chef de la MONUSCO demande au Conseil de sécurité de continuer à appuyer la population et le gouvernement congolais en renouvelant le mandat de la mission onusienne dans le pays. Bintou Keïta affirme que le plan de transition conjoint élaboré par le gouvernement et l'ONU est une feuille de route pour une sortie ordonnée et responsable de la MONUSCO. Fin ce mardi à Kinshasa de la 6e session ordinaire et de la 4e session spéciale au Collège des hautes études des stratégies et de défense. Des hauts gradés militaires de l'École supérieure d'administration militaire ont reçu leur diplôme. Notre invité, c'est le chef de la province éducationnelle de Kine Plateau, Jean Kabasele Tshisekedi, affirme que bien que timide, la rentrée scolaire a été effective hier dans son établissement. Il parle aussi de la gratuité de l'enseignement fondamental. Madame, Messieurs, bonsoir. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC a demandé ce mardi au Conseil de sécurité de continuer son appui à la population et au gouvernement congolais en renouvelant le mandat de la mission onusienne dans le pays. Bintou Keïta affirme que le plan de transition conjoint qui a été élaboré par le gouvernement et l'ONU est une véritable opportunité et une feuille de route pour une sortie ordonnée et responsable de la MONUSCO. Elle parle de progrès en ces sens, tout en soulignant le défi majeur lié à l'insécurité du fait de groupes armés qui sévissent dans l'est du pays. On écoute Bintou Keïta dans cet extrait proposé par Alain Rung Mouchige.
La situation sécuritaire et les contraintes d'accès à l'est du pays continuent d'entraver les opérations humanitaires dans un contexte où une personne sur trois a besoin d'assistance. L'insécurité alimentaire et les épidémies cycliques sont des préoccupations majeures. Les attaques contre des écoles et des hôpitaux ont exacerbé les défis humanitaires dans plusieurs régions de l'est, en particulier l'Ituri. Avec plus de 5 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays, la RDC a le nombre le plus élevé de personnes déplacées sur le continent africain. Plus de 26 millions de Congolais souffrent d'insécurité alimentaire, soit 29% de la population. J'exhorte les États membres à augmenter leur contribution au plan de réponse humanitaire 2021, qui prévoit 1,98 milliard de dollars pour répondre aux besoins prioritaires. À ce jour, malheureusement, le plan est seulement financé à un peu plus du quart. Je tiens à souligner l'engagement ferme de la MONUSCO et de l'équipe pays des Nations Unies à suivre une politique de zéro tolérance pour l'exploitation et les abus sexuels et assurer une assistance globale aux victimes.
Le Collège des hautes études des stratégies et de défense a produit ce mardi à Kinshasa des nouveaux auditeurs militaires et stagiaires civils respectivement de la 6e session ordinaire et de la 4e session spéciale. Lors d'une cérémonie marquée par la présence des chefs d'État de la RDC et du Congo-Brazzaville, des hauts gradés militaires de la 4e promotion de l'École supérieure d'administration militaire ont également reçu leur diplôme. Le commandant du Tchest et le chef d'État-major général de FARDC ont mis en exergue les potentialités de cet important établissement d'apprentissage et de ce que la RDC et l'Afrique centrale attendent des lauréats. Le compte-rendu de Billy Valutumba.
Le Tchèze, considéré comme école d'excellence en matière de stratégie et de défense au niveau africain, le général-major Augustin Moubiaï a présenté les différents types d'enseignements et candidats qui y sont reçus.
Les auditeurs qui vont recevoir les diplômes ou brevets ce jour ont été préparés à devenir des acteurs majeurs dans la promotion de la défense et la sécurisation de nos populations. Des hauts responsables militaires et civils capables de jouer le premier rôle dans les opérations interarmées et multinationales, ainsi que dans la résolution des crises. Des acteurs jouant un rôle principal dans la planification des opérations militaires au niveau stratégique et opératif.
Quant aux récipiendaires de l'ESAM, ils viennent d'être outillés des connaissances en planification, gestion des ressources humaines, marché public, budget, finances, droit, sécurité et la défense. À tous ces lauréats, Denis Sassou Nguesso les a invités à œuvrer désormais pour l'émergence de la sous-région et de l'Afrique.
Nous ne pouvons que compter sur vous. L'Union africaine et la communauté des États de l'Afrique centrale invitent les hauts cadres qui viennent d'être formés au devoir, à la responsabilité, à l'efficacité et à l'excellence.
Et Félix Tshisekedi de conclure.
Je déclare close l'année académique 2020-2021 et ouverte l'année académique 2021-2022 au CESD.
Autre nouvelle sur Radio Okapi. En 31 ans de vie d'enseignant, Joachim Kambalé a connu l'évolution de cette profession. Il regrette cependant que le regard de la société sur le travail des enseignants ne soit pas le même. À l'occasion de la Journée mondiale des enseignants ce mardi, Radio Okapi a rencontré cet enseignant de l'Académie bilingue du Congo à Beni au Nord Kivu. Au micro de Marc Marofimbo, il plaide pour l'amélioration des conditions de vie des enseignants.
Cette situation devra être sauvée par un consensus. Le plus important serait question de prendre le syndicaliste, si Eko Sinekat, les écoles, et qu'on discute sur un intérêt, que ça soit pas un combat entre éléphants. Parce que le fait, seront victimes. Et le fait, ce sont nos enfants. On ne parlera pas d'un futur président si nous avons une éducation médiocre. Le Congo est grand et attend de nous la grandeur. Et cette grandeur ne viendra pas d'un enfant qui ne sait pas se défendre. Quelle chance nous accordons à un enfant si nous pensons que le plus important, c'est parce que nous sommes syndicalistes, agrévants, parce que nous sommes parents. Nous regardons qu'il faudrait pas qu'on amène nos enfants à l'école, parce que nous sommes gouvernement, qu'on se dise que les situations sont difficiles. À ce temps, pour nous, non seulement sauver la situation d'éducation des enfants de Beni Ituri, parce qu'on ne peut pas dire aux enfants d'aller à l'école lorsque les enseignants n'arriveront pas. Alors communiquer, le plus important c'est communiquer. Sans ces dialogues, je nous assure que nous pouvons encore enterrer une semaine, deux jours après jour, et puis on va recadrer encore les calendriers.
Dans le Haut-Katanga, le Lualaba et le Olomami, les cours ont repris, mais très timidement, surtout dans les secteurs publics. À Malembankoulou, par exemple, certains enfants travaillent dans des sites miniers. Le gouvernement provincial promet de traduire en justice ceux qui encouragent ces activités. À Lubumbashi, Jean Gandou.
À Lubumbashi, au deuxième jour de la rentrée scolaire, ce sont plutôt les écoles privées qui ont réellement repris les activités avec beaucoup d'élèves. Dans le secteur public, il y a des écoles où seuls les élèves sont visibles en l'absence de leurs encadreurs. Dans d'autres, les rares enseignants qui se font voir disparaissent aussi vite, laissant les élèves à leur triste sort. Dans le Lualaba, la réalité est la même. Spectacle similaire dans le Olomami. Cependant, dans les territoires de Malembankoulou, les leaders locaux ont continué à sensibiliser les parents de ceux qui avaient abandonné les écoles au profit des carrières minières à retourner sur le chemin de l'école. S'il y en a qui ont accepté, d'autres ne sont pas du tout pressés. Le gouvernement provincial promet de traduire en justice ceux qui exploitent cette main-d'œuvre inadaptée. Wesley Ngoy Lukaya, ministre provincial de l'éducation dans le Olomami.
Le ministre Benin et moi-même devrons être à Malemba pour non seulement retirer les enfants des mines, mais aussi décourager ceux qui les exploitent. De la même façon que l'on condamne l'utilisation des enfants dans l'armée, il est aussi également interdit utiliser les enfants dans les mines au gré de ceux qui veulent s'enrichir très vite dans les jours qui viennent. Il y en aura qui seront déférés devant les instances judiciaires. Mais ça, c'est un crime. C'est chez les écoles pour les intérêts moutons des gens qui seront bel et bien arrêtés.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Dans la Tchopo, pendant ces temps, les syndicats des enseignants des écoles conventionnées catholiques et protestantes demandent aux parents de garder leurs enfants à domicile. Annonce faite ce mardi au lendemain de leur assemblée générale. Dans un communiqué, les deux corporations réclament le respect de leur cahier de charge par le gouvernement central. Des précisions avec leur porte-parole, Gabriel Apama est au micro de Jacques Mkonkole.
Où notre préavis de grève a expiré, c'était les 3. Vous voulez, n'est-ce pas, respecter la procédure normale. Nous avons bien dit dans notre communiqué de presse que les parents doivent garder leurs enfants à la maison pour leur sécurité. Parce qu'il n'y aura pas d'enseignants dans les écoles. Jusque le 1er novembre, nous allons observer l'attitude du gouvernement s'il n'arrive même pas à changer sa position. Et nous allons encore évaluer et puis continuer s'il faut continuer. Pourquoi nous demandons aux enseignants de rester à la maison, demandons aux parents de garder leurs enfants à la maison. Nous revendiquons, un, qu'on puisse supprimer les zones salariales. Deux, qu'on puisse payer le deuxième et troisième palier comme est promis par le président de la République. Troisièmement, payer toutes les NEU, du primaire comme du secondaire. Messieurs les journalistes, vous allez comprendre que avec la gratuité, les élèves sont venus très nombreux dans les écoles primaires. À telle enseigne que l'enseignant qui donne le cours là-bas ne bénéficie rien. Alors c'est ce que nous demandons à ce qu'on puisse payer ces enseignants-là.
Même son de cloche au Nord Kivu où le syndicat des enseignants des écoles conventionnées catholiques a déclenché un mouvement de grève. Conséquence, ce mardi, aucune activité scolaire à part les inscriptions n'a été organisée dans la ville. Gervais Kasereka, secrétaire permanent du dit syndicat, affirme à Radio Okapi qu'une évaluation de ce mouvement de grève aura lieu jeudi prochain. Nous n'avons pas encore eu la réaction du chef des divisions de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Dans un autre chapitre, au moins 83 incidents d'exploitation et d'abus sexuels commis par les personnes travaillant pour le compte de l'OMS et du gouvernement congolais pendant la 10e épidémie de la maladie à virus Ebola. Ces cas ont été commis entre août 2018 et juin 2020 dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Ce rapport d'une commission indépendante instituée par l'OMS a été restitué lundi à Goma au Nord Kivu après sa publication le 28 septembre. Explication de Bernard Nyangi.
Selon la coprésidente de cette commission, c'est en échange des promesses d'emploi que près de 73 femmes avaient été abusées sexuellement dans la zone de Beni-Butembo, Nord Kivu, pendant cette période, alors qu'en Ituri, l'équipe d'enquête a pu signaler environ 10 autres cas. Elle encourage la répression des présumés auteurs et que cette volonté de l'OMS pour élucider ces allégations soit prise pour un modèle, Madame Julienne Lusenge.
Il y a des enfants qui sont nés de ces actes. L'OMS a accepté d'avoir une commission indépendante. Toutes les agences et organisations humanitaires aussi doivent prendre leur courage pour redorer l'image de la communauté humanitaire. On a remis les recommandations à l'OMS et on va suivre.
La conseillère du gouverneur de l'Ituri en matière de genre estime, elle, que ce rapport est une force de plus dans la lutte pour la protection de la femme. Docteur Jeanne Alacha.
Maintenant, il y a une publication officielle mondiale. Là, ça nous donne la force pour que les femmes dénoncent davantage. En Ituri, on a plus de 65 sites de déplacés. On peut trouver aussi encore des cas des abus. C'est pourquoi pour nous, c'est important qu'on puisse vraiment suivre de près les recommandations.
Rappelons que cette commission avait été constituée par le directeur général de l'OMS en octobre 2020 pour examiner les allégations d'exploitation et abus sexuels commis au cours de la riposte à la 10e épidémie d'Ebola dans les deux provinces, Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
On enchaîne avec l'Ituri où plus de 3000 familles vivent ces jours-ci dans des conditions déplorables à Mahagipor, localité située à 260 km au nord de la ville de Bunia. Il s'agit des sinistrés de l'inondation des eaux du lac Albert survenue il y a environ un mois. Les coordonnateurs de l'ONG, les ambassadeurs de bonne volonté, qui revient d'une mission d'enquête dans la région, affirment à Radio Okapi que ces familles manquent de tout. Ils sollicitent l'intervention du gouvernement et des humanitaires. Radio Okapi Bunia, Martial Kizabiamungu.
D'après les enquêtes de l'ONG, les ambassadeurs de bonne volonté, plus d'un millier d'enfants en âge scolaire parmi les sinistrés risquent de rater cette année scolaire suite à la destruction des infrastructures scolaires par les eaux du lac Albert. Certains passent la nuit à la belle étoile, d'autres dans des maisons, des fortides qui les exposent aux intempéries. Les coordonnateurs de cette ONG, Sylvain Hagenroth, ajoutent qu'à part les conditions très difficiles d'hébergement de ces familles, ces vulnérables manquent à manger. Qui redoute la résurgence de certaines maladies dans leur milieu. Sylvain Hagenroth sollicite une intervention rapide du gouvernement et des humanitaires.
Les rivières qui submergent encore les milliers rendent difficile la situation des enfants qui doivent fréquenter une école d'un bout à un autre. Et il y a nécessité que le gouvernement puisse rapidement déployer des grandes actions pour d'abord protéger cette partie du territoire de Mangui, mais aussi construire des logements.
Nous n'avons pas pu réussir à joindre la conseillère du gouverneur des provinces en charge des affaires humanitaires, Bunia. Martial Kiza Biamungu, Radio Okapi.
L'actualité, c'est aussi le site Kivu où l'aéroport national de Kavumu, situé à une vingtaine de kilomètres au nord-est de la ville de Bukavu, nécessite d'intenses travaux de modernisation de la piste d'atterrissage et d'autres installations. Constat fait par le directeur général intérimaire de la régie des voies aériennes RVA qui séjourne en ce moment à Bukavu depuis 48 heures. À Bukavu, c'est une correspondance d'Emmanuel Elamejua Kabili.
L'aéroport Bukavumu, situé à plus de 30 km de la ville de Bukavu, mérite une attention particulière en vue de sa modernisation. La piste d'atterrissage, actuellement longue d'environ 2000 mètres, doit être retouchée afin de prévenir tout danger. Mais aussi le balisage de cette piste pour favoriser les atterrissages et décollages nocturnes. Constat fait lundi par le directeur général AI de la RVA, M. Alphonse Chungu, qui séjournait à Bukavu. Le directeur général de la RVA constate que l'aéroport de Kavumu dépend actuellement en grande partie de la MONUSCO Bukavu, surtout en termes de l'énergie électrique. Ainsi, Alphonse Chungu prend-il l'engagement de régler cette question pour permettre à la RVA Bukavu de faire fonctionner ses installations en toute autonomie par le système solaire avec des panneaux photovoltaïques. Signalons que c'est l'aéroport de Kavumu qui avait servi de secours d'atterrissage des avions lors de la fermeture provisoire de l'aéroport de Goma en juin dernier. Plusieurs voix s'étaient levées pour réclamer la modernisation de toutes les installations aéroportuaires. Emmanuel Elamejiwa Kadedi, Bukavu Radio Kapi.
Actualité internationale.
Alors que les tensions montent entre la France et l'Algérie depuis plusieurs jours, Emmanuel Macron a plaidé ce mardi matin pour l'apaisement. L'Algérie a rappelé son ambassadeur à Paris pour consultation et interdit en même temps aux avions militaires de survoler son territoire depuis que le président français a tenu des propos qualifiés de désobligeants. Alger et Nouvelle, les signes de son mécontentement. Après le sommet de Sochi en 2019, les accords de coopération bilatérale entre la Russie et les pays de l'Afrique subsaharienne se sont multipliés. Après la République centrafricaine, le Mali est au centre de toutes les attentions avec notamment la livraison des 4 hélicoptères russes et les discussions avec le groupe Wagner. Il y a également des possibles accords avec la Mauritanie. Cet intérêt accru de la Russie pour ces pays africains pose question.
L'invité.
Notre invité, c'est le chef de la province éducationnelle de Kinshasa Plateau, Jean Kabasele Tshisekedi, affirme que bien que timide, la rentrée scolaire a été effective dans son ressort. Il revient également sur l'effectivité de la gratuité de l'enseignement fondamental à l'occasion de la journée mondiale des enseignants ce mardi. Il s'entretient avec Jean-Pierre Elali Koko.
Tshisekedi Kabasele, Jean, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Aujourd'hui, c'était la rentrée scolaire. Est-ce que nous pouvons avoir une idée sur l'effectivité ou non de la rentrée scolaire?
Oui, oui. Aujourd'hui, il était question de faire des rondes dans la province éducationnelle de Kinplateau où je suis le responsable. La rentrée scolaire a eu lieu en bonne et due forme. J'ai eu à faire des rondes dans des écoles privées, dans des écoles publiques, des avant et après-midi, j'ai constaté que les enseignants ont respecté d'abord de 1, les calendriers scolaires qui étaient déjà publiés pour la rentrée scolaire qui était fixée pour les 4. Même dans des écoles privées, il y avait des enfants, il y avait des enseignants. Même dans des écoles publiques conventionnées et non conventionnées, je vous dis, ici chez nous, la rentrée scolaire a été liée à mon uniforme.
Cette rentrée scolaire se fait dans un contexte marqué par la pandémie Covid-19. Quelles sont les dispositions que vous avez prises à ce sujet en ce qui concerne non seulement la protection des enfants, mais aussi de votre corps d'enseignants?
C'est depuis un temps que nous avons eu à instaurer un système de respect des mesures barrières dans nos écoles. C'est-à-dire, à l'entrée, il y a quelqu'un, les gardiens, avec un thermoflash. Dès que vous entrez, on va d'abord prélever la température. Après, et vous allez passer à le lavage des mains, vous lavez les mains. Et après, vous allez vous diriger maintenant dans les bureaux ou dans des salles de classe pour les enseignants ou les enfants.
Est-ce que vous avez tenu compte de l'espace qu'elles doivent respecter les enfants, la distanciation sociale?
Oui, je vous dis effectivement, la distanciation sociale est respectée. On exige aussi des cache-nez. Si peut-être auparavant, c'était 3 enfants par banc, mais maintenant cette fois-ci, on a eu à faire un peu la distanciation sociale, 2 enfants par banc, avec la distanciation qui est respectée.
Comme dans toutes les rentrées scolaires, quelles sont les grandes difficultés que nous avons ici?
Oui, vous, comme vous le savez bien, messieurs les journalistes, nous sommes dans des communes ribano-rurales, dans notre province éducationnelle. Et les enfants, souvent, au débit, ne se présentent pas en masse. Ils attendent la première semaine, deuxième semaine, ils vont venir. Ils pourront maintenant se présenter.
À quoi cela est dû?
C'est-à-dire, les parents pensent que les cours reprennent mieux qu'à la deuxième semaine ou troisième semaine.
Est-ce que vous ne vous expliquez pas cela par le fait que les enfants dans ces communes, les parents sont assez pauvres, ils rencontrent des difficultés d'ordre financier pour essayer de supporter les études de leurs enfants?
En quelque sorte, oui, mais sinon, c'est les mêmes parents qui payent les études de leurs enfants. Je vous dis en quelque sorte, parce que ici, comme vous le savez bien, il y a aussi des parents qui vivent à partir de leur champ, ils vivent que de ça.
Revenons un peu en arrière pour parler de la gratuité de l'enseignement. Vous pouvez faire un bref bilan de l'effectivité dans votre sphère éducationnelle.
Oui, je vous dis ici chez nous que ça a été respecté. Nous, on dit la gratuité au niveau des écoles primaires ne se négocie pas. Et ici chez nous, dans la province éducationnelle de Kin Plateau, dans des écoles publiques, c'est la gratuité totale. Ça a été respecté.
Et pour terminer, monsieur le Provède, aujourd'hui, le 5 octobre, c'est la journée mondiale des enseignants. Que vous inspire cette célébration? Quels sont les messages que vous, en tant qu'éducateur, vous lancez à toute la population qui vous écoute en ce moment?
En tant qu'enseignant, nous célébrons la journée du 5 octobre dans la joie, parce que nous sommes honorés, nous les enseignants, nous les formateurs. Ce que nous pouvons dire aux gens qui veulent aussi devenir des enseignants, debout ou assis, c'est d'emboîter les pas. Un enseignant, c'est quelqu'un à encourager, parce que c'est un travail très dur, que beaucoup ne comprennent pas.
Tshisekedi Kabasé, les gens, merci.
Merci beaucoup, messieurs les journalistes.
C'était l'invité de Radio Okapi, le chef de la sous-division de l'EPST Kin Plateau, Jean Kabasele Tshisekedi, interrogé par Jean-Pierre Elali Koko. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté. Merci à Alain Irungmouchi. J'ai Martin Sebujangwe qui m'ont accompagné. Retrouvez cette édition d'information sur www.radiookapi.net.